Entre autres réclamations que la justice exige de faire, le sort des commis subalternes de la douane mérite attention. Il est honteux pour tout gouvernement quelconque de prodiguer des sommes énormes du trésor public en bénéfices simples et en places nominales et inutiles, et de ne pas accorder un salaire décent à ceux qui font le travail. Il y a plus de 100 ans que les commis subalternes du revenu ne reçoivent que la misérable pitance de 50 livres par an. On doit leur en donner 70. En employant une somme de 120 000 livres pour cet objet, on mettrait tous ces appointements sur un pied honnête. Cela fut proposé il y a près de 20 ans, mais les commissaires du Trésor, alors en activité, furent épouvantés de ce projet, parce qu'ils pouvaient conduire à faire les mêmes réclamations à la marine et à l'armée. Et il arriva que le roi, ou quelqu'un de ses agents, s'adressa au Parlement pour faire augmenter la liste civile de 100 000 livres par an, ce qui fut accordé. Et tout le reste fut mis de côté. Quant à une autre classe d'hommes, le bas clergé, je m'abstiens de m'étendre sur sa situation. Mais toute partialité et tout préjugé pour ou contre différentes formes de religions à part, la justice déterminera si on doit accorder un revenu de 20 ou 30 livres sterling à un homme et de 10 000 à un autre. Je parle sur ce sujet avec d'autant plus de liberté que l'on sait que je ne suis pas un presbytérien et que conséquemment on ne peut susciter contre moi le cri de guerre des parasites de la cour touchant l'église anglicane et les assemblées de cette secte entretenues pour amuser et tromper la nation. Ô homme simple et peu éclairé des deux parties, ne discernez-vous pas cette ruse de cour? Si l'on peut vous entretenir dans vos querelles et dans vos disputes au sujet de l'Église et des assemblées, vous remplirez l'objet de tous les courtisans qui, pendant ce temps-là, se repaissent de vos dépouilles et se moquent de votre crédulité. Toute religion qui enseigne à l'homme à être bon est bonne, et je n'en connais aucune qui lui enseigne d'être méchant. Tous les calculs ci-devant mentionnés supposent qu'il n'entre que 16,5 millions de taxes dans le trésor, déduction faite des frais de perception et des remises sur les exportations à la douane et au bureau d'accise. Au lieu que la somme qui entre dans le trésor est de près de 7 millions s'ils ne sont pas complets. Les impôts levés en Écosse et en Irlande sont dépensés dans ces pays-là. C'est pourquoi les épargnes qu'ils pourront faire seront de leurs propres taxes. Mais en cas qu'il en soit versé une partie dans le trésor d'Angleterre, on pourrait leur en faire la remise. Cela ne fera pas une différence de 100 000 livres. Il ne reste plus que la dette nationale à examiner. En l'année 1789, l'intérêt de cette dette, exclusivement de la tontine, était de 9,150,138 livres. Le ministère sait mieux que personne de combien le capital est diminué depuis ce temps-là. Mais après en avoir payé l'intérêt, aboli la taxe sur les maisons et sur les fenêtres, la taxe commuée et celle des pauvres, après avoir fait des provisions pour les pauvres, pour l'éducation des enfants, le soutien de la vieillesse, des soldats réformés et des marins congédiés, après avoir augmenté la paye de ceux qui restent en activité, il y aura un surplus d'1 million sterling. Le plan actuel d'acquitter la dette nationale me paraît, comme juge indifférent, être mal digéré, si ce n'est pas une ruse ministérielle. La dette nationale n'est pas onéreuse parce qu'elle est de tant de millions ou de 100 millions, mais parce qu'elle exige tous les ans une certaine quantité de taxes pour en payer l'intérêt. Si cette quantité est toujours la même, le poids de la dette nationale est le même, que le capital soit plus ou moins considérable. La seule connaissance que le public puisse avoir de la réduction de la dette ne peut venir que de la réduction de l'impôt pour en payer l'intérêt. C'est pourquoi la dette n'est pas diminuée d'un liard pour le public par tous les millions que l'on a payés. Et il faudrait actuellement plus d'argent pour rembourser le capital que le plan a commencé. En me permettant ici une digression, quoique j'aie dessein de revenir sur ce sujet, je jette un coup d'œil rétrograde sur la nomination de M. Pitt au ministère. J'étais alors en Amérique. La guerre était terminée, et quoique le ressentiment eût cessé, la mémoire était encore fraîche sur les événements. Quand la nouvelle de la coalition arriva, quoique cela ne m'intéressât aucunement comme citoyen de l'Amérique, j'y fus sensible comme homme. Elle avait en elle-même quelque chose de choquant, en se faisant un jeu de la décence et même des principes. ce fut impudent de la part de Mylord North et faible de la part de M. Fox. M. Pitt était alors ce que l'on peut appeler un novice en politique. Loin d'être un roué, il parut n'être pas même initié dans les premiers mystères des intrigues de la cour. Tout était en sa faveur. Le ressentiment contre la coalition lui rendait les services de l'amitié, et son ignorance du vice passait pour de la vertu. Avec le retour de la paix, le commerce et la prospérité devaient renaître d'eux-mêmes. Cependant, ce changement fut encore attribué à ses talents. Lorsqu'il prit le timon du gouvernail, la tempête était passée, et il n'avait plus rien pour interrompre sa course. Il fallait même du génie pour avoir des torts, et il réussit. Un très court espace de temps le fit paraître tel qu'avaient été ses prédécesseurs. Au lieu de profiter de ses erreurs qui avaient accumulé un fardeau de taxes sans exemple dans le monde, il chercha des ennemis. Je pourrais même dire qu'il publia qu'il lui en fallait et provoqua des moyens d'augmenter l'impôt. Visant à quelque chose qu'il ne connaissait pas lui-même, il fouilla l'Europe et l'Inde pour trouver des aventures et, abandonnant le beau dessein avec lequel il avait commencé, il devint le chevalier errant des temps modernes. Il est désagréable de voir perdre un caractère. Il l'est encore plus de se trouver trompé. M. Pitt n'avait encore rien mérité, mais il promettait beaucoup. Il avait donné des symptômes d'un esprit supérieur à la bassesse et à la corruption des cours. Sa candeur apparente encourageait l'espoir. Et la confiance publique, étourdie, fatiguée et confondue par un chaos de partis, se ranima et s'attacha à lui. Mais prenant pour son propre mérite le dégoût de la nation pour la coalition, il se précipita dans des mesures qu'un homme moins soutenu que lui n'aurait pas osé entreprendre. Tout cela tend à prouver qu'un changement de ministère ne sert presque de rien. L'un s'en va et l'autre entre, et on poursuit toujours les mêmes mesures, les mêmes vices, les mêmes extravagances. Le vice gît dans le système. Les fondements et l'édifice du gouvernement sont mauvais. On a beau l'étayer, il s'écroule continuellement du côté de la cour et le fera toujours. Je reviens, comme je l'avais promis, au sujet de la dette nationale, ce rejeton de la révolution anglo-hollandaise et de sa dame de compagnie, la succession de Hanovre. Mais il est à présent trop tard de nous informer comment elle a commencé. Ceux qui sont créanciers de l'État ont avancé de l'argent. Et soit qu'il ait été bien ou mal employé ou volé, ce n'est pas leur faute. Il est cependant facile de voir qu'à mesure que la nation fera des progrès dans la contemplation de la nature et des principes du gouvernement et dans la connaissance des impôts, et que lorsqu'elle comparera ceux de l'Amérique, de la France et de l'Angleterre, il sera presque impossible de la tenir dans la même torpeur dans laquelle on l'a jusqu'ici tenue. La nécessité des circonstances demande une prompte réforme. Il ne s'agit pas de savoir si ces principes prestent avec plus ou moins de force dans le moment actuel. Ils sont sortis, ils parcourent le monde, et aucune force ne saurait les arrêter. Comme un secret divulgué, il n'y a plus le moyen de le rappeler. Et il faut être aveugle pour ne pas voir qu'il se fait déjà des changements. 9 millions de taxes superflues deviennent une chose sérieuse. Et surtout lorsque ce n'est pas même pour défrayer les dépenses d'un mauvais gouvernement, mais en grande partie celle d'un gouvernement étranger. Mais en plaçant le pouvoir de faire la guerre entre les mains d'étrangers qui vinrent dans le pays pour attraper ce qu'ils pourraient, on ne devait guère s'attendre à autre chose qu'à ce qui est arrivé. On a déjà donné des raisons dans cet ouvrage pour prouver que, quelles que puissent être les réformes dans l'impôt, elles doivent être faites sur les dépenses ordinaires du gouvernement et non pas sur la partie appliquée à l'intérêt de la dette nationale. En exemptant les pauvres d'impôts, ils seront entièrement soulagés et toutes les causes de mécontentement de leur part s'évanouiront. En abolissant cette partie des taxes dont nous avons parlé, la nation recouvrera plus qu'elle n'a dépensé pour la folle guerre de l'Amérique. Il ne restera plus alors que la dette nationale pour sujet de mécontentement. Et afin d'en écarter la cause, ou plutôt pour la prévenir, ce serait une bonne politique de la part des porteurs de contrats de les regarder comme des propriétés, sujettes, comme toutes les autres, à supporter une portion de l'impôt. Cela les populariserait et les garantirait, et comme les inconvénients qu'ils occasionnent sont en grande partie balancés par le capital qu'ils font circuler, une mesure de ce genre ajouterait tellement à cette considération qu'elle ferait taire toutes les objections. Cela peut se faire graduellement, de manière à accomplir tout ce qui est nécessaire avec la plus grande facilité. Au lieu de taxer le capital, le meilleur moyen serait d'en taxer l'intérêt progressivement et de diminuer l'impôt en proportion de la diminution de l'intérêt. On pourrait par exemple imposer l'intérêt à 1/2 sou par livre la première année, à 1 sou la seconde, et continuer ainsi sur une donnée quelconque. Mais l'impôt devrait toujours être moindre que sur les autres propriétés. Un pareil impôt serait soustrait de l'intérêt au moment du paiement, sans coûter 1 sou de perception. 1 sou par livre diminuerait l'intérêt et conséquemment les taxes de 20 000 livres. La taxe sur les chariots monte à cette somme-là. On pourrait l'ôter la première année. La seconde année, on abolirait l'impôt sur les servantes ou tout autre semblable, et en continuant de cette manière, appliquant toujours la taxe levée sur la propriété de la dette vers son extinction, et non pas aux dépenses courantes, elle se paierait d'elle-même. Les rentiers, malgré cet impôt, paieraient moins de taxes qu'ils n'en payent aujourd'hui. Ce qu'ils épargneraient par l'extinction de la taxe des pauvres, de celle sur les maisons et sur les fenêtres, et de la taxe commuée, serait beaucoup plus considérable que ce qu'ils contribueraient à ce nouvel impôt. Il me paraît que c'est un acte de prudence de chercher des moyens de parer à tous les événements qui ne tarderont peut-être pas à arriver. Il y a en ce moment une crise dans les affaires de l'Europe qui l'exige. Les préparatifs sont maintenant un acte de sagesse. Si une fois on secoue le joug des taxes, il sera difficile de les rétablir. Le remède ne serait pas aussi efficace qu'en procédant par une réduction graduelle et certaine. La fraude, l'hypocrisie et les impositions du gouvernement commencent actuellement à être trop connues pour croire qu'elles puissent encore exister longtemps. La farce de la monarchie et de l'aristocratie, dans tous les pays, va suivre celle de la chevalerie. Et M. Burke s'habille pour aller aux funérailles. Qu'elle passe donc tranquillement dans le tombeau de toutes les autres folies et que les pleureurs s'en consolent. Nous ne sommes pas fort éloignés de l'époque où l'Angleterre tira de sa propre folie d'avoir envoyé chercher des hommes en Hollande, en Hanovre, à Zelle ou à Brunswick, au prix d'1 million par an, qui n'entendaient ni ses lois, ni son langage, ni ses intérêts, et dont la capacité ne les aurait pas rendus propres à être constables de paroisse. Si le gouvernement a pu être confié à de pareils êtres, ce doit être vraiment une chose bien simple et bien facile à diriger. On peut trouver dans toutes les villes et les villages d'Angleterre des matériaux propres à remplir à toutes les fins. Quand pourra-t-on dire dans aucun pays du monde « mes pauvres sont heureux » ? On ne trouve chez eux ni la misère ni l'ignorance, mes prisons sont vides, mes rues n'offrent aucun mendiant. La vieillesse ne manque de rien, les taxes ne sont pas oppressives, le monde raisonnable est mon ami parce que je veux son bonheur. Quand on pourra dire toutes ces choses, alors ce pays aura droit de se vanter de sa constitution et de son gouvernement. Dans l'espace de quelques années, nous avons vu 2 révolutions, celle de l'Amérique et celle de la France. Dans le premier pays, la contestation fut longue et le conflit sévère. Dans le second, la nation agit avec une impulsion si générale que, n'ayant pas d'ennemis étrangers à combattre, la révolution fut complète au moment où elle parut. De ces 2 exemples, il est évident que les plus grandes forces que l'on puisse amener dans le champ des révolutions sont la raison et l'intérêt commun. Partout où elles ont une occasion d'agir, l'opposition meurt de crainte ou se dissout par la conviction. Elles ont, à présent, obtenu un fameux poste, et nous pouvons espérer de voir par la suite des révolutions ou des changements dans les gouvernements effectués avec autant de tranquillité qu'on décide toute autre mesure par la raison et par la discussion. Quand une nation change sa manière de voir et sa façon de penser, elle ne doit plus être gouvernée comme auparavant. Il serait non seulement injuste, mais même peu politique de vouloir faire de force ce qu'il faut faire par la raison. La rébellion consiste à s'opposer forcément à la volonté générale d'une nation, soit que cette opposition vienne de la part d'un parti ou de la part d'un gouvernement. C'est pourquoi il devrait y avoir chez toutes les nations une méthode de connaître, selon l'occasion, l'opinion publique sur le gouvernement. Sur cet article, l'ancien gouvernement de France était supérieur au gouvernement actuel d'Angleterre parce que dans les occasions extraordinaires, on pouvait avoir recours à ce que l'on appelait alors les états généraux. Mais en Angleterre, il n'y a pas de corps de cette nature. Et quant à ceux qu'on appelle aujourd'hui représentants du peuple, la plupart d'entre eux ne sont que des marionnettes de la cour, des gens en place et des dépendants. Quoique tout le peuple d'Angleterre paye les taxes, je crois qu'il n'y en a pas la centième partie qui ait droit d'élection, et les membres d'une des chambres du Parlement ne représentent qu'eux-mêmes. Il n'y a cependant que la volonté générale du peuple qui ait droit d'agir dans tout ce qui a rapport à une réforme générale. Et par la même raison que deux personnes peuvent conférer sur ce sujet, 1000 le peuvent également. L'objet, dans toutes ces mesures préliminaires, est de trouver quel est le sentiment général d'une nation et de se conduire conformément. Si elle préfère un gouvernement mauvais ou défectueux à une réforme, ou si elle veut payer 10 fois plus de taxes qu'il ne faut, elle a droit de le faire. Et tant que la majorité n'imposera pas à la minorité d'autres conditions que celles qu'elle s'impose à elle-même, quoi qu'il puisse y avoir de l'erreur, il n'y a pas d'injustice. L'erreur ne continuera pas non plus longtemps. La raison et la discussion ne tarderont pas à ramener les choses à la vérité, quelque mal qu'elles aient pu commencer. Par cette manière de procéder, on ne peut craindre aucun tumulte. Les pauvres, dans tous les pays, sont naturellement paisibles et reconnaissants dans toutes les réformes, où il s'agit de leur intérêt et de leur bonheur, ce n'est que lorsqu'on les néglige et qu'on les rejette qu'ils deviennent tumultueux. Les objets qui occupent à présent l'attention du public sont la Révolution française et la perspective d'une révolution générale dans les gouvernements. De toutes les nations de l'univers, il n'y en a pas qui doivent s'intéresser davantage à la Révolution française que l'Angleterre. Ennemie depuis des siècles, aux dépens de sommes immenses et sans aucun objet national, l'occasion se présente aujourd'hui de clore la scène et de joindre leurs efforts au reste de l'Europe. En agissant ainsi, non seulement elles empêcheront toute effusion de sang pour l'avenir, une augmentation de taxes, mais elles seront en état de se délivrer d'une partie de leur fardeau actuel, comme nous l'avons déjà observé. Néanmoins, une longue expérience nous a prouvé que les réformes de ce genre ne sont pas celles que désirent les anciens gouvernements. C'est pourquoi c'est aux nations, et non pas à de pareils gouvernements, que ces objets se présentent. J'ai parlé ci-devant d'une alliance entre l'Angleterre, la France et l'Amérique pour des fins dont je devais faire mention par la suite. Quoique je n'ai aucun pouvoir de la part de l'Amérique, j'ai raison de croire qu'elle est disposée à prendre en considération une pareille mesure, pourvu que les gouvernements avec lesquels elle pourrait s'allier agissent comme des gouvernements nationaux et non pas comme les cours enveloppées d'intrigues et de mystères. Il est certain que la France, comme nation et comme gouvernement national, serait portée à une alliance avec l'Angleterre. Les nations comme les individus qui ont longtemps été ennemis sans se connaître ou sans savoir pourquoi n'en deviennent que meilleurs amis lorsqu'elles découvrent les erreurs et les impositions dont elles ont été les dupes. En admettant donc la probabilité d'une pareille alliance, je vais donner quelques raisons pour montrer que cette alliance, jointe à celle de la Hollande, pourrait être infiniment utile, non seulement aux parties contractantes, mais à toute l'Europe. Il est, je crois, certain que si les flottes d'Angleterre, de France et de Hollande étaient confédérées, elles pourraient proposer, avec efficacité, des bornes à toutes les marines de l'Europe et les faire désarmer jusqu'à un certain point dont on conviendrait. Premièrement, on pourrait convenir qu'aucune puissance de l'Europe, les confédérés compris, ne bâtirait aucun nouveau vaisseau de guerre. Secondement, que toutes les marines qui existent aujourd'hui fussent réduites, supposons d'un quart de leur état actuel. Cela épargnerait à l'Angleterre et à la France au moins 2 millions sterling annuellement et leur force relative serait la même. Si les hommes voulaient se donner la peine de penser comme des êtres raisonnables devraient faire, rien ne leur paraîtrait plus ridicule et plus absurde, exclusivement de toute réflexion morale, que de faire la dépense de bâtir des navires, de les remplir d'hommes et ensuite de les pousser dans l'océan pour voir quel est celui qui pourra le plus couler l'autre à fond. La paix, qui ne coûte rien, est accompagnée de beaucoup plus d'avantages qu'aucune victoire avec toutes ses dépenses. Mais la paix, quoiqu'elle remplisse mieux les vues des nations, ne remplit pas celles des gouvernements avec des cours, dont la politique ordinaire est de trouver des prétextes d'impôts, de places et de bénéfices. Il est de même certain que les puissances dont j'ai fait mention pourrait efficacement proposer à l'Espagne l'indépendance de l'Amérique méridionale et ouvrir ce pays immense et opulent au commerce du monde entier, comme l'est maintenant l'Amérique septentrionale. Une nation acquiert bien plus de gloire et obtient de bien plus grands avantages quand elle fait usage de sa puissance pour tirer le monde de l'esclavage et pour se créer des amis que lorsqu'elle emploie cette puissance à augmenter la ruine, la désolation et la misère du genre humain. La pièce affreuse que jouent maintenant les gouvernements anglais dans les Indes orientales n'était bonne que pour les Goths et les Vandales, qui, dénués de tout principe, pillaient et tourmentaient le monde dont ils étaient incapables de jouir. L'ouverture de l'Amérique méridionale produirait un vaste champ pour le commerce et un marché d'argent comptant pour les manufactures, ce que ne fait pas le monde oriental. L'Orient est un pays déjà plein de manufactures dont les importations nuisent non seulement aux manufactures anglaises, mais épuisent même le numéraire du royaume. La balance de ce commerce contre l'Angleterre est régulièrement de plus d'un demi-million sterling annuellement envoyé en argent dans les navires de la Compagnie des Indes. Et cela, les intrigues d'Allemagne et les subsides allemands sont les raisons pour lesquelles il y a si peu d'argent blanc en Angleterre. Mais toutes les guerres sont des moissons pour de pareils gouvernements. Quelque ruineuses qu'elles puissent être pour une nation, elles servent à entretenir des espérances trompeuses qui empêchent un peuple d'examiner les défauts et les abus du gouvernement. C'est le cri de « et le voici, et le voilà » qui amuse et qui trompe la multitude. Jamais une pareille occasion ne s'est offerte à l'Angleterre et à toute l'Europe que celle qu'ont produite les révolutions de l'Amérique et de la France. Par la première, la liberté a acquis un champion national dans le monde occidental, et par la seconde, un en Europe. Quand une autre nation aura imité la France, le despotisme et le mauvais gouvernement oseront à peine se montrer. Pour me servir d'une expression triviale, le fer est chaud dans toute l'Europe. L'Allemand insulté, l'Espagnol asservi, le Russe, le Polonais commencent à penser. Le siècle actuel méritera par la suite le nom du siècle de la raison, et la génération présente paraîtra aux générations futures le nouvel Adam d'un nouveau monde. Quand tous les gouvernements de l'Europe seront établis sur le système représentatif, les nations commenceront à se connaître, et les animosités et les préjugés suscités par l'intrigue et l'artifice des cours cesseront. Le soldat opprimé deviendra citoyen, et le malheureux matelot, n'étant plus traîné dans les rues comme un criminel, continuera en sûreté son voyage mercantile. Il vaudrait mieux que les nations continuassent la paye de leurs soldats leur vie durante, qu'elles leur donnassent leur congé et les rendissent à la liberté et à leurs parents, que d'entretenir de pareilles multitudes avec autant de frais dans une situation inutile à la société et à eux-mêmes. De la manière dont les soldats ont jusqu'ici été traités dans la plupart des pays, on pouvait bien dire qu'ils n'avaient pas d'amis. Évités par les citoyens qui les regardaient comme ennemis de la liberté, et trop souvent insultés par leurs officiers, leur condition était une double oppression. Mais quand un peuple est imbu des principes naturels de la liberté, tout est remis dans l'ordre, et le soldat traité honnêtement est lui-même honnête. En contemplant les révolutions, il est aisé de s'apercevoir qu'elles peuvent provenir de deux causes distinctes. La première, pour éviter quelque grande calamité, ou pour s'y soustraire. La seconde, pour obtenir quelques grands biens positifs. Et ces deux causes peuvent être distinguées par les noms de révolutions actives et passives. Dans celles qui viennent de la première cause, l'esprit s'irrite et s'aigrit, et le redressement des griefs, obtenu avec danger, est souvent souillé par la vengeance. Mais dans celles qui viennent de la dernière, le cœur plutôt animé qu'agité entre avec sérénité sur le sujet. La raison et la discussion, la persuasion et la conviction deviennent les armes de la contestation, et ce n'est que lorsqu'on veut les supprimer qu'on a recours à la violence. Quand les hommes s'accordent à dire qu'une chose est bonne, si on pouvait l'obtenir, telle qu'une diminution d'impôts et l'extinction de la corruption, l'objet est plus d'à moitié accompli. Ils trouveront des moyens de parvenir à leur fin. Quelqu'un, dira-t-il, dans un temps où les taxes tombe avec tant de poids sur les pauvres qu'une remise annuelle de 5 livres sterling à 140 000 pauvres familles ne soit pas une bonne chose? Dira-t-il qu'une remise annuelle de 7 livres à 100 000 autres pauvres familles, de 8 à 100 000 autres, et de 10 livres à 50 000 veuves ne soit pas une bonne chose? Et pour aller encore un peu plus loin sur ce sujet, dira-t-il qu'en pourvoyant aux accidents auxquels la vie humaine est sujette, en assurant 6 livres annuellement à tous les pauvres, depuis l'âge de 50 ans jusqu'à 60, et de 10 livres après l'âge de 60 ans, on ne fasse pas une bonne chose? Dira-t-il que l'abolition de 2 millions de taxes pour les pauvres, et de la totalité de l'impôt sur les maisons et sur les fenêtres, et de la taxe commuée ne soit pas une bonne chose? Ou dira-t-il que ce soit une mauvaise chose d'abolir la corruption? Si donc le bien qu'il y a à obtenir est digne d'une révolution passive, raisonnable et sans dépenses, ce serait une mauvaise politique de préférer d'attendre un malheur qui en nécessitât une violente. Je ne crois pas, en considérant les réformes qui se font maintenant en Europe, que l'Angleterre soit la dernière à penser à la sienne. Et tandis que l'occasion se présente de la faire paisiblement, il serait absurde d'attendre qu'une nécessité violente l'exigeât. On peut regarder comme honorable pour les facultés animales de l'homme d'obtenir un redressement de grief par le courage et par le danger. Mais il est beaucoup plus honorable pour ses facultés spirituelles d'obtenir le même objet par la raison, par un accommodement et par le consentement général. À mesure que les réformes ou les révolutions, appelez-les comme il vous plaira, s'étendront parmi les nations, ces nations formeront des alliances et des conventions, et quand il y en aura ainsi quelques-unes de confédérées, les progrès seront rapides jusqu'à l'extirpation entière du despotisme et du gouvernement corrompu, au moins hors de deux parties du monde, l'Europe et l'Amérique. On pourra alors ordonner aux Algériens de cesser leur piraterie, car ce n'est que par la politique malicieuse des anciens gouvernements, les uns contre les autres, qu'elles existent. Dans toute l'étendue de cet ouvrage, quelque nombreux et quelque variés que soient les sujets que j'ai traités et examinés, il n'y a qu'un seul paragraphe sur la religion, savoir que toute religion est bonne qui enseigne à l'homme à être bon. J'ai soigneusement évité de m'étendre sur ce sujet parce que je suis enclin à croire que le ministère actuel désire d'entretenir les querelles de religion pour empêcher la nation de tourner son attention vers le sujet du gouvernement. C'est comme s'il disait « regardez par ici, ou par là, ou tout autre part, excepté par ici ». Mais comme on fait de la religion une chose politique, et que par là sa réalité en souffre, je vais conclure cet ouvrage en exposant sous quel point de vue j'envisage la religion. Si nous supposons une grande famille d'enfants qui, un jour particulier ou dans des circonstances particulières, auraient coutume d'offrir à leur père quelques marques de leur affection et de leur reconnaissance, chacun d'eux ferait un présent différent et probablement d'une manière différente. Les uns le féliciteraient en vers ou en prose par quelques petites devises, selon que leur génie le leur inspirerait, ou selon ce qu'ils s'imagineraient devoir plaire davantage. Et peut-être le plus petit de tous, incapable de faire aucune de ces choses, irait dans le jardin ou dans les champs cueillir ce qu'il croirait la plus jolie fleur possible, quoique peut-être ce ne fût qu'une simple herbe. Le père serait plus satisfait d'une pareille variété que s'ils avaient tous agi de concert et avaient chacun présenté la même offrande. Cela aurait eu la froide apparence d'une combinaison ou celle d'y être forcé. Mais de toutes les choses les plus désagréables, aucune ne pourrait affliger davantage le père que d'apprendre qu'ils s'étaient tous querellés, filles et garçons, et qu'ils s'étaient battus, insultés et invectivés au sujet de ses présents, chacun soutenant que le sien était le meilleur. Pourquoi ne pas supposer que le père de tous les hommes aime une variété de culte, et que la plus grande offense que nous puissions faire, c'est celle par laquelle nous cherchons à nous tourmenter et à nous rendre misérables les uns les autres? Pour moi, je suis pleinement persuadé que ce que je fais à présent dans le dessein de concilier le genre humain pour le rendre heureux, pour réunir les nations qui ont été jusqu'ici ennemies, pour extirper l'horrible pratique de la guerre et pour rompre les chaînes de l'esclavage et de l'oppression, est agréable à ses yeux, et comme c'est le meilleur service que je puisse rendre, je m'en acquitte avec joie. Je ne crois pas qu'il existe deux hommes qui pensent de même sur aucun point théologique, pourvu qu'ils pensent véritablement. Il n'y a que ceux qui ne pensent pas qui paraissent s'accorder. Il en est de cela comme de la Constitution britannique. On a supposé qu'elle était bonne, et les éloges ont tenu lieu de preuve. Mais quand la nation viendra à examiner ses principes et les abus dont elle est susceptible, elle trouvera qu'elle a plus de défauts que je n'en ai fait voir dans cet ouvrage et dans le précédent. Quant à ce que l'on appelle religion nationale, on peut, avec autant de justesse, parler de dieux nationaux. C'est ou une ruse politique, ou les restes du système païen, lorsque chaque nation avait ses dieux particuliers. De tous les écrivains du clergé anglican qui ont traité le sujet général de la religion, le présent évêque de Llandaff est le plus distingué. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je saisis cette occasion de lui donner cette marque de respect. J'ai maintenant parcouru toutes les branches de ce sujet, au moins selon ce que je puis en juger. Mon intention a toujours été, depuis 5 ans que je suis en Europe, de présenter une adresse au peuple anglais sur le sujet du gouvernement, si l'occasion s'en présentait avant que je retournasse en Amérique. M. Burke me l'a offerte et je l'en remercie. Dans une certaine circonstance, il y a 3 ans, je le pressais de proposer d'élire une convention nationale pour prendre en considération l'état de la nation. Mais je m'aperçus que, quoique le courant du Parlement fût très fort contre le parti avec lequel il agissait, la politique des gens de ce parti était d'entretenir tout dans ce siècle de corruption et de s'en fier aux accidents. Une longue expérience avait prouvé que les parlements suivaient les changements des ministres, et c'est là-dessus qu'ils fondaient leurs espérances. Autrefois, lorsqu'il s'élevait des divisions au sujet des gouvernements, on avait recours à l'épée, et il s'en suivait une guerre civile. Cette coutume barbare est extirpée par le nouveau système, et on a maintenant recours à des conventions nationales. La discussion et la volonté générale sont les arbitres de la question, l'opinion particulière s'y soumet avec bonne grâce, et l'ordre est conservé sans interruption. Quelques personnes ont affecté d'appeler les principes sur lesquels cet ouvrage et la première partie des droits de l'homme sont fondés une nouvelle doctrine. La question n'est pas de savoir si ces principes sont anciens ou nouveaux, mais s'ils sont vrais ou faux. En supposant le premier cas, je vais en démontrer les effets par une figure facile à comprendre. Nous sommes actuellement vers le milieu de février. Si j'allais faire un tour à la campagne, les arbres ne m'offriraient que l'aspect de l'hiver, sans verdure et sans feuillage. Comme ceux qui se promènent arrachent quelquefois une branche en passant, je pourrais peut-être faire la même chose et par hasard découvrir qu'il y avait sur cette branche un bouton qui commençait à pousser. Je raisonnerais bien mal, ou plutôt, je ne raisonnerais pas du tout, si je supposais que ce bouton fût le seul qui eût paru en Angleterre. Au lieu de décider de cette manière, je conclurais sur le champ que la même apparence commençait ou allait commencer partout, et quoique le sommeil végétal continue plus longtemps dans quelques arbres et dans quelques plantes que dans d'autres, quoiqu'il puisse arriver que quelques-uns d'entre eux ne fleurissent pas de 2 ou 3 ans, tous auront cependant des feuilles dans l'été, excepté ceux qui sont pourris. Aucune prévoyance humaine ne saurait déterminer à quelle distance l'été politique suivra l'été naturel. Il n'est cependant pas difficile de s'apercevoir que le printemps est commencé. Ainsi, en souhaitant, avec la plus grande sincérité, liberté et félicité à toutes les nations, je termine la seconde partie.